l'ascension du Rassemblement National avec Alain Minc et Aquilino Morel. Rassemblement national aux élections européennes, législatives et présidentielles était il y a peu encore impensable. Elle est aujourd'hui probable et certains, perspicaces ou défaitistes, la jugent même inéluctable. Qu'est-ce qui se passe? Comment en est-on arrivé là? Ces questions me taraudent. Je les poserai donc à Alain Minc et à Aquilino Morel, qui vient de publier « La parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes du pouvoir ». Je prendrai pour commencer le risque de la naïveté. Y a-t-il vraiment des raisons d'avoir peur? Ou faut-il voir dans cette éventualité, dans cette hypothèse de plus en plus vraisemblable, le jeu normal de l'alternance démocratique? Aquilino Morel.
Avant de répondre à ce qui fait le fond de votre interrogation, c'est-à-dire sur doit-on avoir peur d'une forme d'alternance entre guillemets démocratique, je voudrais rappeler les éléments qui permettent de donner consistance, une consistance inédite aujourd'hui, à la perspective d'une victoire de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Ces éléments, je ne les tirerai pas des sondages, des enquêtes d'opinion qui pourtant indiquent toutes et tous une progression constante en termes d'attention de vote, de jugement des Français sur la stature et la capacité à présider le pays qui serait celle de Marine Le Pen, ou de proximité idéologique, puisque je rappelle tout de même que la dernière enquête du CVPOF, auquel on peut faire confiance, indiquait que le parti dont les Français se sentaient le plus proche était Europe Écologie Les Verts, avec 40% d'opinion favorable ou d'adhésion, mais Rassemblement National en deuxième position avec 39%. Alors même qu'on parle d'écologie matin, midi et soir, ça permet de prendre la mesure, mais je parlerai des résultats. Or, autant en 2017 et à la présidentielle de 2022, la perspective de l'élection de Marine Le Pen était en réalité un épouvantail qui était destiné à ramener au bercail républicain toutes les voix susceptibles de s'égarer. Autant la prochaine fois, ce sera une possibilité réelle. Pourquoi? Parce que aux élections législatives de juin 2022, qui ont succédé à la présidentielle de mai, le front républicain qui existait depuis le 21 avril 2002 s'est fissuré. Et on le voit très bien avec les résultats. À ces élections, le Rassemblement National est arrivé en tête dans 110 circonscriptions. Il a pu se maintenir dans 208 d'entre elles et comme vous le savez, 89 députés ont été élus. Or, il faut le rappeler, ils ont été élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui a été inventé par Michel Debré et par le général de Gaulle, non seulement pour permettre de dégager des majorités, mais bien entendu, pour maintenir les extrêmes de côté. Et le Rassemblement National, comme vous le savez, s'est présenté au second tour de ces élections sans aucun parti qui aurait appelé à voter pour lui, seul. Alors même qu'ensemble, la constellation du président, c'est 7 ou 8 formations politiques, dont la principale, Renaissance, que la NUPES, c'est pareil, c'est 6 ou 7. Donc il y avait un appel à. Or, cela veut dire que les citoyens ont fait sans aucune consigne de vote partidaire ce qu'ils avaient envie de faire, c'est-à-dire en l'occurrence de taper dans le front républicain et de le fissurer. C'est là où on voit que le parti de Marine Le Pen a fortement progressé. Et d'ailleurs, j'ajouterais par rapport à ces législatives, qu'il a été seul, à la fois isolé, tout seul, sans aucun autre parti, et le seul à obtenir 4 grands chelems dans 4 départements. La Haute-Saône, la Haute-Loire, les Pyrénées-Orientales, et l'Aude, ce que aucun autre parti n'a été en situation d'atteindre.
Ce front républicain a-t-il encore un sens? C'est l'enjeu de ma question. Si le parti de Marine Le Pen est républicain, pourquoi sonner le tocsin à la perspective de son arrivée au pouvoir?
Mais vous pouvez sonner le tocsin parce que vous estimez qu'un parti qui est de facto républicain, il n'y a pas de question là-dessus, puisqu'il est représenté à l'Assemblée, il y a 2 vice-présidentes, et personne n'imagine dissoudre le RN. Vous pouvez considérer néanmoins que, ce qui est mon cas, et c'est le sens du livre que vous avez eu la gentillesse de rappeler, pour lequel je suis là, de dire que ce serait un grave danger. Mais sur la question de la réalité du RN. Il faut dire aussi une chose. Pourquoi on ne peut pas considérer ce parti aujourd'hui comme on le faisait auparavant, avec cette bonne conscience qui nous a perdus? Parce qu'il faut tout de même rappeler les choses à la trajectoire historique du RN. Quand Jean-Marie Le Pen s'est présenté en 1974, il a obtenu 190 921 voix, 0,74%, c'est-à-dire rien, tellement rien, qu'il n'a pas pu être candidat en 80, il n'a pas eu les 500 parrainages. Le 21 avril, jour de triste mémoire, et j'étais aux côtés de Lionel Jospin ce jour-là, Jean-Marie Le Pen, 16,86% des voix, 4 804 000 voix. Marine Le Pen, en avril 2022, 13 288 686 voix. Quand vous passez de 190 000 à 13 millions, c'est-à-dire que vous multipliez votre résultat par 70 et vous multipliez le résultat du 21 avril par 3, ce ne sont plus les mêmes électeurs, ce ne sont plus les mêmes citoyens. Et autant on pouvait dire, sans caricaturer les choses, en 1974, oui, les électeurs de Jean-Marie Le Pen sont des fachos, des racistes, des xénophobes, des antisémites, tout ce que vous voulez, autant aujourd'hui, on ne peut pas le dire. D'ailleurs, le président de la République l'a dit lui-même avec une certaine force.
À l'Amérique.
Le problème tient à la spécificité des institutions françaises. Il y a une poussée du populisme d'extrême droite dans tous les pays occidentaux et en particulier dans tous les pays d'Europe. Mais quand cela se passe dans le cadre de démocratie parlementaire, en réalité, le parti populiste d'extrême droite ou est prisonnier d'un jeu de coalition, ou il reste en dehors du pouvoir, mais il n'a aucune chance de pouvoir gouverner par lui-même. Et quand on prend le cas italien, qui est un cas qui sert à beaucoup de ceux qui se résignent à l'arrivée de Marine Le Pen en disant « c'est pas un drame ». Situation très différente. Madame Meloni est dans une coalition. Madame Meloni est présidente du Conseil. Il y a au-dessus d'elle un président de la République dont la popularité est très supérieure à la sienne et qui peut à tout moment lui donner un coup de règle sur les doigts. Le problème des institutions françaises, c'est-à-dire de la monarchie républicaine, c'est que si le Rassemblement national arrive au pouvoir et fait ce qui est plausible, le grand chelem, il a à ce moment-là tous les pouvoirs en main. Qu'est-ce qu'il en fera? Au fond, on ne le sait pas. Et je vous en donne un exemple. Est-ce que Madame Le Pen s'en prendra aux institutions en disant « je me mets sous l'ombre portée du général de Gaulle et je fais un référendum au titre de l'article 11 », c'est-à-dire notoirement inconstitutionnel? C'est en effet ce que le général a fait et de Gaulle était de Gaulle. Et elle change les institutions. Ou est-ce qu'elle aura une politique absurde économiquement, mais mollassonne en termes sociopolitiques? On n'en sait rien. Au fond, on ne sait pas ce qu'est le Rassemblement national. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nos institutions donnent une dynamique au pouvoir quand il s'installe, qui fait qu'il va peut-être même au-delà de ce qu'il avait en tête. Et pour prendre un exemple qui est 81, je le dis d'autant plus que j'ai voté pour François Mitterrand en 81, comme en 74, comme en 88. On a vu ce qu'est un enchaînement. Or, qu'est-ce qui a arrêté une certaine marche extrême? C'est qu'il y avait des contre-pouvoirs dans le système socialiste, à commencer par Pierre Mauroy, Premier ministre. Là, on a affaire à un système où le parti, à mon avis, de Madame Le Pen, est plus extrémiste qu'elle, me semble-t-il, si je lis les journaux. Donc je pense que nos institutions créent un risque spécifique et qu'il y a donc un danger.
Mais alors, moi je pose une question simple. Marine Le Pen, arrivée au pouvoir, risque, en effet, malgré l'opposition déjà déclarée du Conseil constitutionnel, d'organiser un référendum sur l'immigration. Cela veut-il dire que la France, alors, commencera à basculer vers l'extrême droite? Je pose la question à tous les deux, à Aquilino Morel.
Oui, mais avant de répondre sur l'immigration, je voudrais aller dans le sens d'Alain Minc, qui dit des choses très justes à propos de la non-comparaison qu'il ne faut pas faire entre l'Italie, la France, Giorgia Meloni et Marine Le Pen. Ne serait-ce que pour une raison que vous n'avez pas citée, mais qui est quand même fondamentale. C'est que si le 9 mai 2027, Emmanuel Macron reçoit sur le perron de l'Élysée Marine Le Pen, ce ne sera pas seulement pour lui dire « bonjour, je vais vous accueillir dans votre prochaine maison », ce sera pour lui transmettre les codes de l'arme nucléaire. Ce qui est une différence fondamentale entre l'Italie et la France et notre régime présidentialiste et un régime de type parlementaire classique que vous avez rappelé. Et les raisons de plus, en plus de celle-là qui est déjà massive, pour ne pas souhaiter l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que je peux ajouter? Je l'avais dit, et probablement, vous avez raison, il est probable que Marine Le Pen ne soit pas raciste, antisémite en elle-même. Mais enfin, il y a un certain nombre de personnes qui gravitent autour d'elle, qui appartiennent à son histoire, à son passé, qui, elles, le sont. Par ailleurs, on ne peut pas quand même dire qu'elle nous écrase de sa compétence, qu'elle soit économique et politique. Mais ce n'est peut-être pas un bon argument. Mais surtout, son projet européen, et c'est quelqu'un de foncièrement hostile au fédéralisme clandestin qui le dit, mais qui sait aussi que le destin de la France et de l'Europe sont désormais totalement intriqués. Quel est-il ce projet? On ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Vous avez raison à la main. D'une certaine manière, c'est une inconnue, mais on n'est pas obligé de se résoudre à cette inconnue. On peut même la combattre.
Attendez, Akin Morel, la question je la pose à tous les deux. Dans votre livre, La parole des aveugles, vous dénoncez l'inanité de la diabolisation. Plus de posture morale, une position politique. Et Charles Sapin, dans le livre « Les maçons de la colère », va dans le même sens. C'est un livre consacré au progrès de toutes les droites nationalistes. Il dit « Leur diabolisation par leur assimilation au totalitarisme génocidaire du XXe siècle, qui justifiait jadis leur ostracisation politique, a perdu irrémédiablement de son acuité et de son efficacité. » Mais là, l'un et l'autre, vous la diabolisez à nouveau.
Non, je la diabolise en aucun cas. Par exemple, je suis de ceux qui se sont réjouis de sa présence à la manif contre l'antisémitisme. Et j'ai même utilisé cette comparaison qui est de dire si les Croix de Feu et l'Action Française avaient manifesté en 38 contre l'antisémitisme, peut-être que 40 n'auraient pas été 40. Moi, je vois quatre points majeurs d'affrontement avec elle. Premier point, je crois qu'elle porte dans ses chromosomes un anti-américanisme primaire. Deuxième point, elle subit l'Europe, elle ne l'accepte pas. On peut avoir des divergences, et Dieu sait si on en a, qu'il est nos morts, elle et moi, sur l'Europe. Mais on sait que le destin de la France est européen. Troisièmement, on ne sait pas si elle considère que la démocratie, c'est le suffrage universel, point final, où c'est le suffrage universel plus les pouvoirs et les contre-pouvoirs, et c'est un enjeu majeur. Et quatrième point, elle a une politique économique absurde. Le quatrième point, à la limite, est le moins grave, parce que les marchés se chargeront en une semaine de la ramener à la raison. Il faut toujours avoir en tête que les marchés ont tué Madame Truss, qui pensait être plus libérale que Madame Thatcher, en réalité en 3 jours. Comme je l'ai dit un jour à un interlocuteur qui n'était pas du Front National, mais qui était de LFI, vous savez, vous, ça sera en une nanoseconde. Eh ben, Madame Le Pen, ça sera en une poignée de secondes.
Oui, mais alors, pensez-vous que ce serait aller dans le mauvais sens que de procéder, c'était ma première question, à un référendum sur l'immigration?
Personnellement, je pense que c'est jeter de l'essence sur les flammes. Mais mon propos, quand je parlais de l'article 11, c'est je ne pensais pas à un référendum sur l'immigration. Je parlais à un référendum institutionnel, autant au niveau de la divergence qui est de dire il n'y a que le suffrage universel qui est démocratique, ce qu'elle ne cesse de dire, et non pas l'acceptation des pouvoirs et du contre-pouvoir.
Akinyele Morel.
Sur la diabolisation. Je suis comme à la main, que je ne diabolise pas Madame Le Pen. Tout mon livre consiste précisément, en tout cas dans une large mesure, à démonter...
Mais vous dites aussi à un moment donné que son entourage est resté antisémite, etc., pétainiste...
Donc... Je le dis parce que c'est un fait, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Marine Le Pen, ce n'est pas les cadres dirigeants du RN dont il faudrait démasquer ou débusquer les turpitudes, parce que ça ne sert strictement à rien. Ce qui m'intéresse, ce sont les Français qui votent pour Marine Le Pen. Or, la diabolisation, c'est la diabolisation d'abord des électeurs. C'est cette fameuse jurisprudence tapis, comme je l'ai désigné, qui a dit les électeurs de Marine, de Jean-Marie Le Pen à l'époque et du FN sont soit des salauds, soit des stupides. Ça, c'est terminé. Quand vous avez plus de 13 millions d'électeurs qui votent pour ce parti et cette personne, ce ne sont pas des salauds, ce ne sont pas des stupides. Et la diabolisation en 40 ans d'existence, 1984, son lancement avec SOS Racisme et François Mitterrand, et aujourd'hui a établi de manière absolument flagrante son inefficacité et, je dirais, sa perversité morale. Parce qu'elle conduit en réalité les bonnes âmes à mettre la main sur le cœur et à détourner le regard des véritables problèmes en laissant les gens qui souffrent, qui sont dans une détresse souvent, se réfugier vers le seul parti qui, croit-il, même si c'est inexact, même si c'est artificiel, même si c'est pervers, porte leur parole et se tourne vers eux.
L'exactitude historique oblige à rappeler que l'ascension du Front National devenu le Rassemblement National a été interrompue une fois. Nicolas Sarkozy, et qui a fait régresser profondément Marine Le Pen. Et je vais vous raconter avec la prescription une anecdote, mais qui est très illustrative. Mais chacun connaît mes liens avec Nicolas Sarkozy. Le jour où il dit qu'il fera un ministère de l'identité nationale, il m'appelle et il me dit « ce que j'ai dit doit te déplaire ». Et je lui réponds « c'est un pari faustien ». Il m'appelle le matin du premier tour et il me dit « à quel niveau crois-tu que j'ai gagné mon pari faustien ?» Et je lui dis « si tu as deux fois les voix de Jean-Marie Le Pen ». Et le soir, il m'appelle et il me dit simplement « trois fois ». Et c'est vrai, il a fait régresser massivement le Front National.
À Kenny Morel.
Je l'ai écrit dans le livre. Et c'est un fait que beaucoup de gens se refusent à considérer. Mais pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il effectivement fait régresser Jean-Marie Le Pen, qui obtenait 16,86% des voix en 2002, à 10,44%, qui l'a fait fondre de près de 40%. Mais parce qu'il a eu l'intelligence politique, ensuite... Les choses se sont passées comme elles se sont passées, c'est-à-dire qu'il a échoué. Mais il a eu l'intelligence politique de traiter à la fois la question sociale, travailler plus pour gagner plus, la défiscalisation des heures supplémentaires, s'adresser aux ouvriers, aux employés, aux petites gens, et la question dite identitaire. Et ce sont sur ces deux pieds qu'il faut marcher. Et ce qui est terrible, c'est que la gauche est totalement absente du débat identitaire qu'elle considère être un débat de fachos, alors même que l'identité de la France, c'est la République, ce sont les services publics, l'école, l'hôpital... L'assimilation des immigrés, nous sommes ici tous les trois des témoins et des produits. C'est ça l'identité. Or, bien sûr, c'est le seul moyen de barrer la route à Marine Le Pen. On anticipe peut-être déjà un peu...
Non, mais justement, il semblerait que le succès actuel du Rassemblement National tient au fait que ce parti prend en compte, aux yeux d'un certain nombre d'électeurs, leur angoisse existentielle mieux que les autres. De quelle nature est cette angoisse existentielle? Eh bien, la France restera-t-elle la France? La France, que sera la France dans 100 ans au rythme actuel de l'immigration? Et on constate en effet que toute une partie de la gauche refuse de traiter cette question. Patrick Boucheron parle de la régression identitaire qui poisse notre contemporanéité, et tout le sens de l'histoire mondiale de la France, c'est précisément de disperser cette identité, de montrer qu'en fait, elle n'a jamais existé, et un chroniqueur de l'Obs disait que la France n'était rien d'autre qu'une succession d'aléas, un fatras, doux et violent, une vaste aventure collective sans signification particulière. Et donc voilà l'attitude d'une partie de la gauche, et même, j'ajouterais, et j'en terminerai là, à lire une certaine presse, on a le sentiment que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible si la bête immonde, par ses agressions, par ses exactions, etc., ne mettait en péril le vivre ensemble. Donc c'est l'antifascisme qui, disons, tient lieu, et l'antiracisme qui tient lieu d'identité collective à la gauche.
Avant de répondre à votre point, Aquilino Morel a cité deux raisons. Il a cité le lien à la classe ouvrière et il a cité le problème de l'identité. Avant de répondre sur l'identité, je voudrais revenir sur la classe ouvrière, parce que là, je pense que nous serons d'accord. Le propos que je tiens est un propos d'enfant de communiste ou d'ancien communiste. La disparition du Parti communiste et son remplacement par le Front National puis le Rassemblement National est un événement majeur. C'est-à-dire que, en réalité, et quand on va dans le nord de la France, on voit exactement les endroits. Vous aviez 45% de voix communistes, vous avez 45% de voix Rassemblement National. Et la fonction sociale que remplissait le Parti communiste, qui était à la fois une fonction politique, idéologique et une grande famille, c'est-à-dire une fonction d'insertion, a complètement disparu. Et puis, on voit que le Rassemblement National agrège à cela une classe ouvrière qui a été récupérée, les chiffres sont fascinants, du vote ouvrier, une autre France, qui est la France des petits commerçants, des petits bourgeois insatisfaits du Sud, avec l'ombre portée encore, évidemment, des rapatriés d'Algérie. Donc, il y a une agrégation de deux frustrations. Et comme je dit parfois sous forme de boutade que je m'estime le dernier marxiste français, je préfère d'abord regarder la question sociale avant de parler de la question identitaire. Sur la question identitaire, on est tous d'accord. Penser qu'il faudra faire abstraction des classes sociales, que la coalition de Terra Nova est l'avenir et qu'il faut déconstruire l'histoire, c'est un jeu d'ailleurs auquel le président de la République, avant de revenir dans un sillon plus raisonnable, a prêté la main. Quand il a dit « il n'y a pas de culture française, il y a Absolument. Des cultures en France ». Bon, oui, Dieu merci, il s'est aperçu qu'il fallait revenir dans la ligne générale.
Oui, mais d'un autre côté, il a pensé comme vous, à un moment donné, le président de la République, vous prendrez la parole tous les deux, que la question sociale était le cœur du problème. Et il a donc dit « si le communautarisme prospère, c'est sur les ruines ». De nos politiques économiques et sociales, la société statutaire sans perspective de mobilité crée du désespoir social, d'où l'ubérisation de l'économie, comme si ça pouvait résoudre le problème de banlieue. Il y a quand même une question culturelle aussi.
Mais j'ai pas la même réponse que lui. Je pense que c'est pas l'absence de mobilité sociale qui crée le communautarisme. C'est que nous sommes dans un pays où les syndicats sont anémiés. Par rapport à d'autres pays, qu'avec cette culture ouvrière, les structures d'encadrement ont disparu. Dans les autres pays, vous avez des syndicats qui demeurent puissants, vous avez des fondations, vous avez des institutions, vous avez des églises, vous avez une société qui est encadrée. Et qu'en France, on est maintenant dans une logique où vous avez des individus électeurs qui sont en face du monarque et qu'il n'y a rien entre les deux. Et ça, en effet, c'est le terreau le meilleur pour la prospérité d'un parti populiste.
Je voudrais revenir sur ce que
Aquilino Morel,
l'ancien électeur de François Mitterrand et le fils de communiste immigré, a rappelé à la Minc, avec laquelle je suis absolument d'accord, mais qui est extrêmement important. C'est la manière dont la gauche, à laquelle je continue d'appartenir, a abandonné les électeurs ouvriers et populaires. Vous évoquez les chiffres, on le sait, hein, c'est en grosso modo 70% des ouvriers qui votent Marine Le Pen et 60% des employés. Ce sont des résultats massifs. Et cela conduit à quoi ? Ça conduit, il faut bien le comprendre, pour voir l'état de déridiction de la gauche et de son rapport aux classes populaires. La circonscription de François Mitterrand, cher à votre cœur Alain Château-Chinon, vote à 52% pour Marine Le Pen. 52%. Carmo, la patrie de Jean Jaurès, vote à 54% pour Marine Le Pen. Celle de Blum, à Narbonne, vote à 55%. Sainte-Gabelle, le bastion de Lionel Jospin, vote à 51% pour Marine Le Pen. Sans oublier, bien entendu, les dom-toms qui votent massivement pour Marine Le Pen et, vous l'évoquez, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais où la majorité des élus locaux, maires, conseillers départementaux, sont de gauche, socialistes ou communistes et qui votent à 60% pour Marine Le Pen. Donc le constat pour la gauche, il est là. C'est une faillite politique, idéologique, électorale, mais surtout morale, pratiquement sans précédent.
Mais ça a été aussi un choix. Vous faites
oui,
un sort
de certains.
À Aquilino Morel dans la parabole des aveugles, à cette note de Terra Nova dont parlait à l'instant Alain Minc, une note publiée en 2011 par ce think tank progressiste, quelle majorité électorale pour 2012 ? Il était dit très clairement, mai 68 a entraîné la gauche politique vers le libéralisme culturel, liberté sexuelle, contraception, avortement, remise en cause de la famille traditionnelle, ouverture aux différences, attitude favorable aux immigrés, à l'islam, à l'homosexualité. D'ailleurs, la jonction de l'islam et de l'homosexualité, quand on pense à la situation des homosexuels en terre d'islam, est un peu étrange. La solidarité avec les plus démunis et... Cette note ajoute, la nouvelle gauche a le visage de la France de demain, plus jeune, plus féminin, plus divers, plus diplômé, mais aussi plus urbain et moins catholique. Et contrairement à l'électorat historique de la gauche, coalisé par les enjeux socio-économiques, cette France de demain est avant tout unifiée par ses valeurs culturelles progressistes. Elle veut le changement, elle est tolérante, ouverte, solidaire, optimiste, offensive, alors que le peuple, lui, il est fermé sur lui-même, xénophobe. Donc il faut abandonner ce peuple parce que, précisément, il n'est plus de gauche au sens que la gauche revêt aujourd'hui. Et j'ajoute une chose, l'attitude de la France insoumise, qui n'est pas celle de Terranova, qui consiste à s'aligner sur ce qu'on croit être les aspirations, mais celle-là du nouveau peuple, du peuple des quartiers populaires, qu'il s'agisse de l'abaya, par exemple, c'est le parti laïque qui choisit de défendre l'abaya à l'école, ou bien d'une certaine forme d'antisémitisme. Vous avez parlé, Alain Minc, de la marche contre l'antisémitisme. Mélenchon a tweeté ce jour-là, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Voilà où nous en sommes aujourd'hui de la gauche. Et autre exemple, toute la France s'est mobilisée quand Jean-Marie Le Pen a fait ce calembour détestable du Rafour crématoire, toute la classe politico-médiatique, fort heureusement. Mais quand un humoriste du service public dit que Benjamin Netanyahou, c'est une sorte de nazi sans prépuce, il ne s'excuse pas, il n'est pas sanctionné, il en fait un livre, et ce livre est célébré par toute la presse de gauche. Donc il y a un antisémitisme que tout le monde veut combattre, et il y en a un autre qui est bienvenu, qui a même pignon sur rue. C'est aussi ça la situation d'une certaine partie de la gauche, Alain Minc.
Oui, mais bon, on voit très bien quel est le pari cynique de Jean-Luc Mélenchon. Il veut ramasser le vote musulman. Il l'a déjà eu, mais avec des taux de participation assez faibles. Donc il veut augmenter le taux de participation et augmenter le score en sa faveur. Et comme nous savons tous que c'est un homme calculateur et intelligent, il fait un calcul qui est destiné à l'amener au second tour. Et pour ça, il paye le prix sous toutes les formes que vous avez indiquées.
Mais risque-t-on, Alain Minc, d'assister, si ce calcul s'avère juste, un deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen?
Le risque est très grand. Pourquoi? Mais là, ça va nous amener à la politique. Aujourd'hui, en réalité, les modérés, c'est une trentaine de pourcents, grosso modo, un peu plus. Si la gestion politique actuelle aboutit à ce qu'il y ait deux candidats modérés, dans le magma macrono-droite, grosso modo, ils n'ont aucune chance d'être au deuxième tour. Pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat modéré, il faut qu'ils aient gouverné ensemble. Et moi, je considère personnellement qu'Emmanuel Macron, en ne prenant pas la responsabilité de gouverner avec la droite démocratique, prend le risque de favoriser la présence de deux candidats à sa succession. Et je trouve ça extraordinairement grave.
Donc, cette hypothèse doit être envisagée sérieusement.
Elle peut être envisagée, qu'elle doit l'être, bien sûr.
Si je peux répondre sur cette hypothèse, mais auparavant, je voudrais dire un mot rapide sur cette fameuse note Terranova du 10 mai 2011. Parce que cette note, au-delà de son inconséquence sociologique et politique, je rappelle simplement, vous n'avez pas cité, mais enfin que ses auteurs indiquaient, ce qui était bien la vérité, que le seul problème de la nouvelle coalition qu'ils préconisaient, c'était qu'elle était minoritaire. Bah, ça, forcément, en additionnant des petites minorités, on n'a jamais réussi à faire une majorité. Mais son intérêt, c'est qu'elle a, si vous voulez, elle a vendu la mèche. Elle a dévoilé le poteau rose, parce que le processus que vous avez décrit à la Finkielkraut était en route depuis longtemps, depuis 1984, depuis que SOS Racisme avait lancé son fameux slogan « L'immigration n'est pas un problème, c'est le racisme qui en est un », ce qui est le moyen très simple de liquider la question de l'immigration, de la faire sortir hors du champ du débat rationnel et politique, et de diaboliser complètement tous ceux qui voudraient s'interroger sur la possibilité pour une nation, un pays, une société, de déterminer le nombre des personnes immigrées qui viendraient la rejoindre. Donc c'était un moment, si vous voulez, de cristallisation du débat, mais d'un débat qui venait d'avant. Si on s'intéresse maintenant à l'élection de 2027, je suis d'accord en partie avec ce que vient de dire Alain Minc, mais pas tout à fait. Je ne suis pas d'accord sur la menace Mélenchon. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme effectivement intelligent, que je connais un peu, qui est un stratège, qui comme tous les trotskistes a une véritable structuration intellectuelle et une culture historique qu'on pourrait recommander à nombre de ses congénères désormais, ne peut pas emporter, parce que les zones où il est fort, voire très fort, je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis, où il, en réalité, il aurait pu obtenir, s'il avait décidé 12 circonscriptions sur 12, il a consenti à en laisser une ou deux au Parti Socialiste, au Parti Communiste, enfin peu importe. Mais dans ces zones-là, quand vous faites 60%, si vous en faites 80 ou 90, et même je dirais par provocation 120%, ça ne change rien. Vous avez toujours que 12 députés. Compte tenu de ce qu'il a dit, des positions qu'il a prises, de son ambiguïté calculée sur la question d'antisémitisme à des fins cyniques et électorales, Je pense qu'il est, en réalité, à mon avis, incapable, qu'il n'arrivera pas.
Il n'arrivera pas à quoi ? Au deuxième tour ?
Au deuxième tour.
Vous n'envisagez pas son accession au deuxième tour ?
Là où je suis d'accord avec vous, que c'est la seule chose qui pourrait lui permettre cette situation folle, dans laquelle d'ailleurs, contrairement à sa vision délirante, il serait écrabouillé par Marine Le Pen. Écrabouillé. Bon.
Oui, ça, c'est
le seul cas de figure qui permettrait, c'est le suicide des autres partis politiques.
Oui, c'est ce que je veux dire.
Voilà. Vous êtes d'accord ?
Ah bah absolument. Mais attention, dans ces cas-là, il faut bien pointer les responsabilités. Qui est aujourd'hui en charge de la nation, de la République, de l'État, et d'une certaine forme, quand même, de bien public ? C'est le président de la République. S'il n'est pas capable, lui-même, au terme de ce second quinquennat, de désigner la configuration politique, et vous avez raison, Alain Minc, il aurait dû le faire dès 2022, en s'alliant clairement et fermement avec LR. Il n'a pas voulu le faire par hubris.
Et par confort, en pensant qu'au fond, il manipulerait avec son charme la majorité relative.
C'est ça, par hubris. Donc il a cru qu'il était plus fort qu'il ne l'était.
Mais il a cru aussi dans les vertus du « en même temps ». Il considère encore peut-être que la véritable opposition en France, c'est plus la droite et la gauche, c'est les conservateurs de tous bords et les progressistes, dont il veut être l'incarnation. Et ce progressisme, il veut le voir se perpétuer au-delà de ces deux quinquennats.
Ne sous-estimez pas son intelligence, il est lucide. Il sait très bien qu'aujourd'hui, son électorat est un électorat de
droite
et de centre-droit. D'ailleurs, au fond, il faut revenir au point de départ. François Bayrou fait 19% en 2007. Emmanuel Macron fait 24% en 2017. Ça veut dire que le talent vaut 5 points, c'est tout.
Oui, alors simplement, je voudrais vous faire réagir à ce qui m'apparaît comme une étrange convergence. Vous dites que Jean-Luc Mélenchon n'a aucune chance.
À mon sens.
Vous l'avez très bien défini, mais cette convergence, elle est laquelle ? Le jour de l'adoption de la loi immigration, le président du MEDEF, Patrick Martin, dit qu'il jugeait nécessaire que dans 30 ans, 30% des habitants de France soient des immigrés de première génération. D'ici à 2050, nous aurons besoin, sauf à réinventer notre modèle social, ajoute-t-il, de 3 900 000 travailleurs étrangers. Ce ne sont pas les patrons qui demandent massivement de l'immigration, c'est l'économie. Donc la convergence que je vois, elle est entre le calcul cynique de l'économisme et la ferveur compassionnelle. Si vous voulez. Les hommes sont interchangeables, à la fois pour un certain type de capitalistes, pas forcément tous, et pour les antiracistes d'aujourd'hui. Alors jusqu'où ira-t-on dans cette convergence ? Aquilino Morel.
Cette position, je parle sous le contrôle d'Alain Minc qui connaît cet univers bien mieux que moi, et peut-être c'est lui qui le connaît le mieux, cette conception de ce que les personnes immigrées que nous ferions venir dans notre pays serait, selon le cas, des bras, quand il s'agit de travailleurs peu qualifiés, ou des cerveaux, dans le cas d'étudiants formés et disposant d'un diplôme important. C'est une vision qui est très ancienne et qui est une conception absurde. Parce que ce que l'on fait venir, c'est des femmes, des hommes, avec leur famille, avec leurs idées, avec leurs coutumes, avec leur histoire, avec leurs traditions, avec leur religion. Tout cela peut créer de la richesse, bien entendu, mais ça crée d'abord des frictions, des tensions inévitables. La question de l'altérité qui est posée là, Lévi-Strauss a tout dit là-dessus. Il faut, pour que deux sociétés puissent se confronter, il faut un certain niveau d'égalité, écrit-il, et une certaine distance. Donc, mais par ailleurs, à la main connaît ça par cœur, en 63, Georges Pompidou, que dit-il à l'Assemblée nationale ? Je le cite. L'immigration est un moyen de créer une certaine détente sur le marché du travail et de permettre de résister à la protection sociale. Moi, je veux rappeler que dans l'accession du FN, le moment initial, inaugural, c'est Dreux, 1983. Or, à Dreux, pour ces raisons-là, parce qu'on a fait venir, en contournant la loi, en allant chercher directement chez eux des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, pour les faire venir travailler dans les usines de Dreux, et on a fait multiplier la population immigrée par 3, 25% d'immigrants en 83, c'est là où la bombe Front National a explosé.
Non, la bombe, elle explose
Alain Minc.
En réalité par le regroupement familial. C'est-à-dire que la vision du patron du MEDEF, Patrick Martin, je crois.
Je crois, en s'opposant de cacahuètes venant d'Alain Minc.
C'est la vieille vision qui serait, on fait venir des travailleurs et après on les utilise, on les renvoie. Et qui correspond à un problème économique réel. Nous manquons et nous manquerons de main-d'œuvre aussi bien en bas de l'échelle des emplois qu'en haut de l'échelle des emplois. La question, c'est que notre système, par une décision qui date de la présidence Giscard et qui est une décision du Conseil d'État, et pas en réalité du pouvoir exécutif, en faisant le droit sans limite au regroupement familial, change la nature. Et c'est le regroupement familial qui a créé cet engrenage et les problèmes aujourd'hui d'intégration que nous avons.
Oui, mais à ce moment-là, vous avez raison de rappeler l'importance que cette disposition a jouée. Mais il faut en tirer la conclusion. On ne peut plus parler, stricto sensu, d'immigration de travail.
Non.
C'est une migration désormais de peuplement. Donc il faut bien le comprendre. Et à ce moment-là, il faut bien déterminer des critères objectifs aussi rationnels puisse-t-il être, pour dire combien nous acceptons de nouveaux immigrés chaque année dans le pays.
Oui, mais...
Pardon, le propos, c'est qu'en effet, il faudrait revenir à une immigration de travail. C'est-à-dire revenir aux mécanismes qui font que c'est une immigration de peuplement.
Oui, mais Alain Minc, pour cela, il faudrait peut-être que la France, disons, s'affranchisse d'un certain nombre de règles, de contraintes européennes, de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et donc ça aussi, c'est très difficile. Et je voudrais rappeler aussi que le Danemark a contenu l'extrême droite par une législation extrêmement restrictive en matière d'immigration.
Ce qui prouve qu'elle est parfaitement compatible avec l'appartenance à l'Union européenne.
Oui, mais le Danemark a des règles particulières.
Il a des opt-out, mais pas sur ces choses-là. Bon, beaucoup moins que les Anglais n'en avaient, qui avaient atteint le paradis, qui était d'être dedans pour certaines choses et dehors pour d'autres. Donc, je crois que c'est pas la Cour européenne des droits de l'homme qui est à l'origine du regroupement familial. C'est notre législation, notre jurisprudence et un certain nombre de faits acquis. Et c'est un enjeu absolument considérable. Et je crois que si on ne traite pas ce problème, on va être pris dans un engrenage qui devient immaîtrisé. Il l'est déjà. Et incontrôlable, il le sera de plus en plus.
J'aurais un point de divergence avec Alain Minc sur la question du regroupement familial. C'est que je considère que le regroupement familial est un droit inaliénable. On ne peut pas autoriser une personne à venir s'installer dans notre pays et lui dire « Vous viendrez sans vos enfants, sans votre épouse ou votre époux. » Donc, le vrai problème, que d'ailleurs, en général, les responsables politiques ne veulent pas affronter, ce n'est pas la question des immigrés qui sont en situation régulière, qui viennent avec ou qui fassent venir leurs enfants, leurs femmes ou pas. C'est l'immigration irrégulière. C'est-à-dire qu'il faut être capable, à un moment donné, collectivement, de déterminer les moyens, y compris... Je suis plutôt d'accord avec vous, à la Finkielkraut, en prenant une certaine distance par rapport à des jurisprudences très marquées par les droits de l'homme européennes, le moyen de maîtriser l'immigration irrégulière. Et à propos de la Cour européenne des droits de l'homme, je voudrais rappeler, parce que c'est une erreur qui est souvent faite, qu'elle n'appartient pas au système communautaire. C'est une institution qui a été créée avec le Conseil de l'Europe en 49. Donc, c'est tout à fait distinct. Donc, à la limite, remettre en question une partie de sa jurisprudence ne provoquerait aucun dégât au sein du système européen.
Mais est-ce qu'on peut s'en tenir à cette opposition entre une immigration régulière et une immigration irrégulière quand on voit ce qui se passe tous les jours en France? Et je voudrais vous citer une conversation entre François Mitterrand et Jean Daniel, une conversation qui est relatée dans le livre posthume de Jean Daniel, « Réconcilier la France ». Et Jean Daniel s'inquiète effectivement du changement démographique à l'œuvre dans notre pays, et Mitterrand s'agace, « Ce que vous me dites n'est pas juste, l'intégration marche beaucoup mieux que vous n'imaginez, la France a une telle force de civilisation ». Jean Daniel insiste, « Président, le pays est en train de changer. Le clocher de votre affiche électorale, dans peu de temps, vous le verrez entouré par deux minarets. » Et là, Mitterrand explose. « Vous parlez comme Le Pen. » Mais est-ce qu'on peut dire, effectivement, qu'à ce moment-là, Jean Daniel parlait comme De Gaulle,
qui a parlé de Colombey,
les deux mosquées. Oui, donc, mais vous voyez bien que là, ça ne tient pas simplement à l'immigration irrégulière, ça tient à une mutation liée, justement, au nouveau paysage démographique de la France, si je puis dire.
Mais les deux questions ne sont pas séparables. Que la nouvelle immigration qu'on connaît depuis 30 ou 40 ans, qui n'est plus européenne, qui est une immigration qui n'est plus de tradition ou de culture ou de pratique chrétienne, qui est musulmane pour l'essentiel d'Afrique et d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, bien sûr que ça a une importance. Mais le fait qu'on ne puisse pas contrôler les flux entrants, c'est quelque chose qui aggrave considérablement cette situation que vous indiquez.
Je vais revenir sur une divergence que nous avons. Pour moi, des contrats de travail qui n'incorporent pas le regroupement familial pour des durées dans le temps me paraissent pas être une atteinte aux droits de l'homme. Je veux dire, combien connaît-on, alors certes à des niveaux plus élevés de la société, de cadres qui vont travailler à l'étranger sans que leur famille les rejoigne. Donc, je pense, mais ça suppose qu'on gère l'immigration par quota, qu'on gère l'immigration en fonction de besoins économiques et avec, en effet, des permis de séjour à durée limitée pour 2, 3, 4 ans régulières sans entraîner la présence de droit de la famille.
C'est une hypothèse, mais elle est d'abord assez inhumaine. Je la trouve inhumaine. C'est quand même très cruel que de demander ça à quelqu'un. Et par ailleurs, je la crois, pardonnez-moi, un peu naïve, parce que c'est le problème d'ailleurs de l'immigration irrégulière. C'est que qu'est-ce qui vous empêche ensuite, une fois que vous êtes là, de rester? Et imaginez que quelqu'un va venir pour faire le commis de cuisine dans un restaurant et qu'on va lui dire au bout de 4 ans, faut rentrer chez vous. Je pense que c'est un peu irénique. Mais je voudrais revenir sur la question d'identité que vous évoquiez, le dialogue entre François Mitterrand et Jean-Daniel, qui a écrit d'ailleurs des lignes absolument lumineuses et très claires sur cette question. Mais dès 1984, un homme aussi irréprochable et impeccable que Bernard Stasi.
Bernard Stasi, oui.
Bon, que je cite dans le livre.
Absolument.
Qui écrit un livre qui est un manifeste, l'immigration une chance pour la France. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est un homme honnête. Il dit l'immigration est une incontestable remise en cause de notre identité nationale. Donc si on n'arrive pas 40 ans après à admettre ce point et à se dire qu'effectivement il faut considérer cette dimension-là dans la définition de nos politiques migratoires, enfin de contrôle de l'immigration, bah, ça la prouve quand même. L'inanité du débat politique en France depuis toute cette période et la manière dont il a été surplombé par une sorte d'idéologie qui a vitrifié la capacité de débattre de ces questions.
Oui, bien sûr. Alors je cite une dernière fois Jean-Daniel. Il ne faut pas seulement l'égalité des citoyens, il faut que ces derniers forment une communauté aussi charnelle que civique. Or, en 2015... Je crois que vous travaillez pour François Hollande. Vous étiez conseiller de François Hollande.
Plus à ce moment-là, Dieu merci.
Ah, en 2015. Ah oui, parce que il y a eu un rapport qui est très, très révélateur de Thierry Thuot, aujourd'hui encore au Conseil d'État. La grande nation pour une société inclusive. Il fustige dans ce rapport la célébration angoissée du passé révolu d'une France chevrotante et confite dans des traditions imaginaire, et il parle d'inclusion parce qu'il ne veut non plus non seulement de l'assimilation, mais même de l'intégration. L'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi. Alors, c'est quand même...
c'est une aspiration communautariste claire. Je crois que nous venons de vivre ces derniers mois une validation de ce qui reste encore notre modèle. Ce n'est pas en France qu'il y a eu 300 000 personnes manifestant en disant « One Palestine from the sea to the river ». C'est en Angleterre, c'est-à-dire dans un univers communautaire. En France, quelles que soient les tensions que la société française a eues, il y a eu des manifestations, une manifestation pro-palestinienne dont les deux tiers étaient des membres d'LFI, quasiment voisins de la place de la République, des quartiers bobos. C'est-à-dire que notre modèle, malgré tout, si atteint soit-il, tient infiniment mieux. Et donc, c'est encore une chance qu'il en soit là, et il faut empêcher son affaiblissement ultérieur.
Ah, je suis absolument d'accord sur les deux points, pas seulement sur la conclusion, empêcher son affaiblissement. Au contraire, il faut le renforcer. Je considère que, effectivement, l'assimilation reste la plus belle perspective politique que l'on puisse offrir aux immigrés qui veulent venir chez nous, et que la France puisse s'offrir. Je pense qu'on en est ce matin quand même l'illustration. Donc ça c'est absolument, absolument décisif,
d'accord,
c'est vrai.
D'accord, mais il ne faut pas non plus oublier l'explosion des actes antisémites.
Oui, alors je voulais venir...
Sur 7 octobre.
Non, je voulais venir à ce point-là. C'est-à-dire que vient de souligner Alain Minc. C'est-à-dire le fait que, oui, ça tient. Il y a des tensions, il y a des difficultés, mais ça tient parce que le modèle républicain et le modèle assimilationniste, en réalité, la majorité, la très grande majorité française l'ont fait leur. Donc ils sont attachés à cela. Et il ne faut pas oublier que la France est un pays qui a été meurtri dans sa chair par une succession d'attentats islamistes absolument ignobles. Charlie le Bataclan, l'hypercachère et Nice, dans ce pays-là, qui a été meurtri, avec une cruauté inédite, y a-t-il eu des manifestations d'islamophobie ou de violence contre les musulmans? Moi, je n'en vois pas. Ça prouve, je ne dis pas qu'il y a eu des tensions, qu'il n'y a pas eu des tensions à tel ou tel endroit, mais cela prouve le degré de maturité et d'attachement de notre pays à la matrice républicaine.
Alors maintenant, pour finir, une question pragmatique. Vous pensez l'un et l'autre que l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen mettrait le pays en grand danger? Vous avez été très convaincant l'un et l'autre. Que faut-il faire, brièvement, pour que cela n'arrive pas, Alain Minc?
Écoutez, il y a l'urgence et le long terme. L'urgence, c'est d'avoir une situation politique, je l'ai dit, avec un candidat modéré de l'univers centre-droite, même question à gauche. C'est-à-dire, s'il y avait un candidat unique de la gauche non mélenchoniste, il représente 20-25% des Français, en réalité, et on le verra au score aux européennes. Donc c'est la même interrogation qui vaut à gauche, c'est-à-dire est-ce que les gens de gauche non mélenchonistes sont prêts à s'unir? Ce sont les réponses politiques instantanées. Et puis les réponses de long terme, c'est d'une toute autre ambition, c'est de répondre à une divergence qui résume tout ce qu'on a dit et qui a été dit en deux mots par un sociologue anglais. Il y a les anywhere et les somewhere. Nous sommes des anywhere, c'est-à-dire des gens qui sont bien partout. Et les somewhere, ce sont les gens qui se sentent attachés à leur sol et qui se sentent mal. Et aussi longtemps qu'il y aura une coupure anywhere, somewhere, je ne sais pas si la barrière tiendra durablement.
Moi, je suis plutôt somewhere. Aquiline Morel.
C'est une information.
Ben voilà. C'est un scoop.
C'est un scoop.
Le mot est très anywhere.
Non, vous faites semblant.
Non.
Je suis.
C'est une posture.
Pour reprendre la distinction court terme, moyen terme que propose Alain Minc, bien sûr, je l'ai dit, je crois qu'à court terme, c'est à droite et au centre droit que la solution va se dégager parce que il faut dire les choses. À gauche, c'est impossible parce que vous dites au total, ils vont faire 25% des voix. Mais en réalité, sur les problèmes cruciaux du pays, ces personnes que je connais bien ne pensent pas du tout la même chose sur aucune des questions. Ni sur le nucléaire, ni sur la République, le communautarisme, ni sur l'islam, ni sur l'Europe. En fait, sur rien. Donc, c'est une fiction électorale que l'on retrouve statistiquement lorsqu'on agrège les chiffres, mais qui ne correspond pas à une vérité politique. Donc, je pense que la solution, s'il y a, elle sera du côté de la droite et du centre droit. Ça ne me regarde assez peu, mais j'invite tous ceux qui sont concernés par ce point, pas seulement nous tous, puisque nous sommes tous français, mais les responsables de droite, à se mettre en marche. Et sur le fond, bien sûr que ce sera très long. Mais je voudrais, c'est la première condition, me semble-t-il, et je voudrais citer notre ami Jacques Julliard, qui vient de disparaître, regretté, qui dit les choses très simplement. Si vous voulez combattre le FN, il faut le priver de sa ressource principale, c'est-à-dire de commencer par respecter le peuple. Voilà. Il faut respecter le peuple, se tourner vers lui, ne pas le traiter systématiquement comme un mineur incapable de comprendre les enjeux des problèmes, lui tenir un langage de vérité, que les élites dont la société a absolument besoin soient capables de tenir un discours de peut-être un petit peu d'introspection et de remise en question de leurs propres certitudes et des positions qui ont été adoptées depuis 30 ou 40 ans, et qu'elles retrouvent, j'espère que vous serez d'accord avec moi, qu'elles retrouvent un certain patriotisme.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder la réalité en face? Je cite là Elisabeth Badinter, « Une seconde société s'impose insidieusement dans notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. » Le problème de la gauche n'est-il pas celui d'une sorte de déni, de cécité volontaire?
Mais bien entendu, c'est pour ça que mon livre s'intitule « La parabole des aveugles voilà. ». Mais ce sont des aveugles, pas de naissance ou par maladie, ce sont des aveugles volontaires. Ils refusent d'envisager certaines réalités qui leur déplaisent.
Dans la manière dont vous citez la phrase d'Elisabeth Badinter, il y a un non-dit implicite qui est de dire il y a une évolution qui est inévitable et inéluctable et que cette deuxième société va prendre le pas. Moi, je suis moins pessimiste que vous et je voudrais revenir sur un point qui peut choquer. Je pense que nonobstant ce qui s'est passé sur les violences antisémites, dans un pays où il y a 6,5 millions de musulmans, où il y a 600 000 juifs, je pense que ce pays a tenu. Oui. Si on enlève des nombres d'actes antisémites, les actes inspirés par Moscou, On reçoit tous des lettres antisémites dont on voit très bien qu'elles viennent d'une matrice. Alors, il n'y a rien de réjouissant dans ce qui s'est passé, mais il faudrait avoir pour une fois un point de vue un peu optimiste. Ce pays tient.
Je suis parfaitement d'accord.
Très bien, nous terminons sur cet accord. Merci beaucoup, Alain Minc, Aquilino Morel. Alain Minc, votre dernier livre s'intitule « Dictionnaire amoureux du pouvoir ». Il est coédité par Plon et Grasset. Et Aquilino Morel, vous publiez chez Grasset « La parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes de l'Élysée ». La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Sur les traces d'Hélène Baer et d'Estelle Moufflarge ». Mes invités seront Bastien François et Karine Baranès Bénichou. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Loïc Duros. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.